VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Crise en Gambie, le Parlement nigérian va se pencher sur la question de savoir si le pays doit accorder l'asile au président gambien Yahya Jammeh, a affirmé ce jeudi un député à Abuja. Emmanuel Yissa Okerjev, président du comité de la réglementation et du commerce à la Chambre des représentants, a déclaré à la chaîne de télévision nationale NTA qu'une motion serait discutée ce jeudi. Les députés se pencheront sur la possibilité d'accorder à Jammeh l'asile dans le cadre d'un processus de réconciliation dans la crise actuelle en Gambie, a déclaré M. Okerjev. Mais la motion, si elle est adoptée, n'engage pas le gouvernement nigérian. Rappelons que le président gambien Yahya Jammeh a perdu les élections du 1er décembre face au candidat de l'opposition Adama Barrow. Mais après avoir dans un premier temps accepté les résultats, il s'est finalement rétracté et a décidé de contester les résultats devant la Cour suprême gambienne. Une exigence qui laisse présager une longue impasse politique vu que la plus haute instance judiciaire de Gambie est dans l'impossibilité de statuer avant plusieurs mois, faute de juges. Le président nigérien Muhammadu Buhari doit mener ce vendredi une délégation de dirigeants de l'Afrique de l'Ouest à Banjul pour tenter de trouver une solution à la crise en Gambie. Et toujours concernant cette crise, le président béninois Patrice Talon, en visite mercredi à Abidjan, a dit qu'il espérait être avec le président ivoirien Alassane Ouattara à Banjul le 19 janvier pour l'investiture du président élu de Gambie, Adama Barrow. Mali, un des organisateurs présumés de l'attentat djihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam en mars 2016, a été arrêté dans le nord du pays par des militaires de la force française Barkhane. C'est ce qu'annonce ce jeudi l'AFP, citant des sources de sécurité concordantes. Plus d'une dizaine de personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête, dont plusieurs au Mali. Mais l'homme présenté comme le principal cerveau de l'attentat, identifié comme Kunta Dalla, de nationalité malienne, est toujours recherché. Toujours concernant le Mali, ouverture hier à Bamako du Forum de la jeunesse, le thème retenu, jeunesse et entrepreneuriat. Plus de 300 jeunes venus d'Afrique et de la diaspora, ainsi que des jeunes français, y participent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre malien Modibo Keïta en présence des ministres de la jeunesse de plusieurs pays africains. Des jeunes venus des quatre coins du globe situent les enjeux de la rencontre. On les écoute.
Je suis Claude Kangoudia, je viens de la République démocratique du Congo. Et l'entrepreneuriat, surtout dans nos pays africains où les jeunes sont au chômage, ça demande vraiment que les jeunes puissent se prendre en charge en créant les entreprises et en gérant les entreprises. Cette fois-ci, il va créer l'emploi pour les autres jeunes.
Je m'appelle Awa Kanté, en fait je suis expert comptable et commissaire aux comptes installé en France et j'essaie de développer au Mali. Donc on est là pour pouvoir inciter, parce que c'est le forum de la jeunesse de l'entrepreneuriat. Donc par rapport à ça, moi aujourd'hui, c'est pour aussi soulever le point qu'aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre sans accompagnement. On parle d'accompagnement professionnel. Par exemple, un jeune entrepreneur, il a besoin d'être accompagné, que ce soit économiquement, fiscalement, comptablement, juridiquement.
Je suis Tamoua Fokam-Marie, je viens du Cameroun. Aujourd'hui, il est question de faire un bilan de ces 11 années, pas seulement ces 11 années, mais depuis le dernier sommet. Nous avons deux jours de discussion avec l'ensemble des délégués qui sont venus des pays. Il y aura des échanges qui seront faits. Donc, pour moi, aujourd'hui, le bilan, il doit être positif.
Des jeunes Africains au micro de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, au Mali. Au Burkina Faso, le régime semi-présidentiel conservé, mais solidement encadré. La commission constitutionnelle chargée d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution pour la 5e République vient de rendre public son travail. Sur les particularités de la nouvelle loi fondamentale du Burkina Faso, écoutez Luc Marius Ibriga, l'un des rédacteurs.
Les pouvoirs du président sont encadrés et les pouvoirs de l'Assemblée sont élargis. Le président n'a plus la latitude de nommer comme il veut aux plus hautes fonctions. Il lui faut l'approbation de l'Assemblée nationale, comme ce qui se fait aux États-Unis entre le président et le Sénat. Ensuite, il y a le fait que le président ne peut pas utiliser les pouvoirs exceptionnels comme il veut. Non seulement c'est limité dans le temps, cela doit se faire avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale.
Voilà, c'était Luc Marius Ibriga, l'un des rédacteurs de la nouvelle loi fondamentale du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, les tractations se poursuivent sous l'égide de la CENCO, la conférence épiscopale catholique, pour parvenir à finaliser l'accord du 31 décembre dernier. De passage à Washington, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, réaffirme sur VOA Afrique que le président Joseph Kabila quittera le pouvoir après l'élection de son successeur. Nicolas Pinault a tendu son micro à Lambert Mende.
À ma connaissance, les évêques ont commencé à travailler, à trouver cette inclusion. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés jusque-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils continuent leurs contacts. Ce sont des gens très respectés. Nous avions toujours dit que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux, il y a souvent des chances que des solutions soient trouvées. Les évêques, ce sont nos évêques, ce sont nos frères qui sont des responsables de l'Église catholique et ça met tout le monde plus ou moins en confiance. Et donc je pense qu'il n'y a pas de raison de douter qu'on arrivera à rapprocher les points de vue.
Sami Badibanga, le Premier ministre, n'a toujours pas signé cet accord. Pourquoi ?
Je pense qu'il soulève une question de principe dans la mesure où l'accord a été bouclé en l'absence des forces qu'il représente. Vous savez qu'il est à la tête d'un groupe parlementaire très important, le deuxième après la majorité présidentielle au niveau du Parlement, et que lorsqu'on est dans une telle position, je pense qu'on a des raisons d'exiger d'être pris au sérieux.
Le cas Moïse Katumbi, c'est un point de blocage ?
Non, je ne pense pas que ça puisse consister en un point de blocage, c'est un point de principe. Dans la mesure où l'État congolais avait reproché à Moïse Katumbi des problèmes concernant la sécurité de l'État, il aurait été facile pour l'État d'abandonner les poursuites. Et tous les cas pour lesquels la commission des magistrats est arrivée à une décision d'abandon de poursuite concernaient des cas où l'État était préjudicié. Vous savez, lorsqu'il y a un complot contre l'État, l'État peut abandonner les poursuites. Mais le cas de Moïse Katumbi se complique par le fait que il y a non seulement ce cas pour lequel il y a des poursuites, qu'on pourrait éventuellement abandonner, mais il y a aussi une condamnation pour spoliation de biens privés. Qu'est-ce que les évêques vont faire ? Probablement négocier avec les privés qui ont maille à partir avec M. Katumbi. Il n'y a que ça.
Est-ce qu'on votera avant la fin décembre 2017 pour la présidentielle en RDC ?
Tout dépend de la commission électorale nationale indépendante.
Qui avait déjà annoncé qu'on devait voter en 2018.
Donc là, je pense qu'on est allé un peu vite en besogne. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on a été trop optimiste en n'écoutant pas les experts. Je pense que vous vous rendez compte que l'accord du 31 décembre ne fixe même pas de date. Donc on a idéologisé une question qui est, à mon avis, une question technique. Je pense qu'il eût été plus sage de résoudre ce problème en écoutant les techniciens.
Est-ce que l'argent est là pour ces élections ou vous attendez encore des fonds ?
Pour ce qui concerne l'argent, il a été décidé que le gouvernement donnera priorité aux élections. On a besoin de, au bas mot, 1 milliard 800 millions. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va devoir s'imposer beaucoup de sacrifices parce que le budget n'excède pas 5 milliards. Il va falloir construire moins d'écoles, construire moins d'hôpitaux, faire moins de routes, peut-être demander des sacrifices aux fonctionnaires et aux institutions pour que le Congo puisse avoir des élections qui sont le point de départ d'une mise en ordre du pays.
Et aujourd'hui, vous confirmez que le président Kabila quittera le pouvoir lorsque son successeur aura été élu ?
Le président Kabila ne peut pas ne pas respecter la Constitution. Tel est le prescrit de la Constitution, il a prêté serment à la Constitution et la Constitution ne prévoit pas la possibilité d'un troisième mandat consécutif pour un chef d'État. Cela coule de source.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Actualité américaine, le président élu Donald Trump a finalement donné mercredi à New York sa première conférence de presse depuis son élection à la présidence américaine. Il y a reconnu pour la première fois le piratage informatique du Parti démocrate par la Russie. Le milliardaire républicain a également réitéré son intention d'abroger l'Obamacare, le programme d'assurance maladie du président Barack Obama, et de le remplacer immédiatement. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines à Washington, est plutôt sceptique sur cette ambition. On l'écoute.
À mon avis, c'est pas possible parce que c'est très compliqué. Pour le moment, les républicains qui parlent de ça depuis 7 ans déjà, ils n'ont pas d'idée. Ils ont dit, nous allons le remplacer avec quelque chose de mieux. Mais ils n'ont pas d'idée. Mais je suppose qu'ils travaillent jour et nuit maintenant pour organiser un remplacement.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines à Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.